tu fais un truc parce que t'as envie de le faire. Tu vois ce que ça donne. Et au fur et à mesure, en fait, ça t'amène une autre énergie. Et au fur et à mesure de faire des choses qui deviennent un peu exponentielles, tu gagnes en maturité et tu gagnes dans ton expérience. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme un voyage, nommé que dis-je, une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres, un art de vivre transcendantal permettant in fine de se réaliser. Et ouais, qu'il s'agisse d'illustrations ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram @jeremykleiss ainsi que sur senscreatif-podcast. Ce podcast est sponsorisé par Adobe qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde et ce notamment en créant le Creative Cloud. Une solution tout en un vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité et j'imagine qu'en ce moment même, qui sait, vous êtes peut-être en vacances. La montagne, la mer, le soleil, tout ça, en un mot, vous êtes en vadrouille. Mais malgré tout, admiratif face à tant de beauté, le soir, après une bonne balade dans les collines, ça vous démange sévère de créer quelque chose. Eh bien, grâce à Adobe, la créativité n'a jamais été aussi accessible. Vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro ou encore créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, histoire de tout casser à la rentrée. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous partager un épisode enregistré en public lors du festival Nîmes Illustre sur une thématique qui m'est très chère, à savoir comment fédérer la communauté artistique. Et en parlant de fédération et de communauté artistique, avant de plonger dans ce nouvel épisode, j'ai quelques petites annonces à vous faire. La première, c'est le retour de l'annuel apéro pique-nique Sens Créatif à Paris. Une seule date à retenir, le 28 août 2021. Easy peasy. Rendez-vous comme chaque année à partir de 17h30 au parc Montsouris afin de rencontrer plein d'autres créatifs comme vous ainsi que d'autres auditeurs de Sens Créatif. On vient de vivre une année et demie chelou avec tous ces confinements. Maintenant, on peut enfin se retrouver, boire des coups et se faire la bise. C'est vous qui voyez. Mais dans tous les cas, don't hesitate. N'hésitez pas et venez faire la fête avec nous histoire de discuter d'illustration, de métiers créatifs et de tous ces sujets qui nous passionnent et que nous avons en commun. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il y aura du beau monde. Sous réserve de changement de dernière minute, plusieurs invités du podcast, dont Marion de Melenard, Pierre-Louis Bouvier, Julia Bernard, Mickaël Prigent, Laurent Bazar, Mickaël Terra et Elodie Winter, ont déjà confirmé leur venue. Vous les avez appréciés sur le podcast, venez les rencontrer en vrai. Je garde un excellent souvenir des deux précédentes éditions et j'ai hâte de réitérer l'expérience avec vous. Alors notez la date, inscrivez-vous sur la page de l'événement en tapant Apéro Pique-Nique Sens Créatif sur Facebook et rendez-vous le 28 août au Parc Montsouris à Paris. Mais ce n'est pas tout, car si vous êtes membre du Patate Club, en d'autres mots, si vous soutenez financièrement le podcast sur Patreon, je vous donne également rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 29 août, pour une journée VIP spéciale Patate Club. Le samedi, l'événement est ouvert à tous, le dimanche est exclusivement réservé aux patates du Patate Club. Alors si toi aussi tu fais partie du Patate Club, viens, on ira se balader dans Paris, on visitera des expos, on ira boire des coups, manger un morceau, le tout dans la joie et la bonne humeur. Histoire de repartir gonflé à bloc avant la rentrée. Et si vous n'êtes pas encore membre du Patate Club, rendez-vous sur Patreon pour vous inscrire. Vous allez voir, ça dépote. Pour plus de détails, rendez-vous sur patreon.com/senscreativepodcast pour en savoir plus. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais il n'y avait pas une deuxième annonce ? Absolument. Et ça fait des mois que j'attends pour vous l'annoncer. J'avais tellement hâte de vous en parler. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous inviter au prochain enregistrement live et en public du podcast. Oui, oui, rendez-vous le 10 septembre à 19h30 à la prestigieuse galerie Arts Factory à Paris pour une table ronde autour du sujet « Quelle parité entre les hommes et les femmes dans les métiers de l'illustration ?» Et pour le coup, je vous ai concocté une programmation de rêve. J'ai nommé Tiffany Cooper, illustratrice et autrice de bande dessinée dont le nouveau livre « Homme suite homme » sortira en octobre prochain. Un livre sur la parité, ou plutôt sur l'absence de parité dans l'espace domestique, ainsi que Lucille Gomez, illustratrice et autrice de bande dessinée engagée sur des sujets comme le féminisme, le maternage, l'accouchement, la créativité ou encore le freelancing, sans oublier Pauline Taimit de l'agence d'illustration Monica Velour, une agence engagée et 100% féminine. Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes chances dans les métiers d'illustration ? Qu'en est-il du sexisme ou des inégalités dans ce métier ? Pourquoi des initiatives comme la création d'une agence 100% féminine ? Venez en discuter le vendredi 10 septembre chez Arts Factory à partir de 19h30. Par ailleurs, l'événement est gratuit, mais les places seront limitées. L'espace où aura lieu l'enregistrement ne pouvant accueillir plus de 40 personnes maximum, et encore, tout dépendra des restrictions sanitaires en termes de jauge à ce moment-là, l'ambiance sera plutôt familiale et malheureusement, nous ne pourrons garantir des places assises pour tout le monde. Dans tous les cas, nous partirons sous le principe du premier arrivé, premier servi. L'enregistrement de cet épisode live sera bien sûr disponible par la suite sur vos plateformes d'écoute et de podcast, mais si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement de venir, car ça va envoyer du pâté. Je vais prochainement créer un événement Facebook, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil en tapant Sens Créatif fait son show live chez Arts Factory. Si j'ai des infos de dernière minute à vous communiquer, c'est là que je vous tiendrai au courant. Voilà voilà. Mais assez blablaté, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous partager ce nouvel épisode live et en public du podcast Sens Créatif. Une discussion enregistrée début juillet lors du festival Nîmes Illustre autour de cette fameuse thématique dont je vous parlais précédemment, comment fédérer la communauté artistique. Pour en discuter, j'ai eu le plaisir d'accueillir Marie-Laure Cruchy, illustratrice et directrice artistique du festival en question, Mickaël Prigent, illustrateur et cofondateur du collectif The Parisianer que vous connaissez sûrement, ainsi que Marion de Melenard, illustratrice et fondatrice de l'atelier Ton Piquant à Bruxelles que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter sur ce podcast. Le but du festival étant entre autres d'offrir un espace d'échange à toute la communauté des illustrateurs et illustratrices de France, vous imaginez bien, j'ai adoré discuter de ce sujet avec mes invités. Mais si ce moment a pu avoir lieu, c'est aussi grâce à vous. Parce que vous, oui vous, si vous étiez là, vous vous reconnaîtrez. Merci pour votre présence, votre enthousiasme et votre bonne humeur lors de ce petit moment que nous avons pu partager tous ensemble. Dans cet épisode, Marie-Laure nous a parlé de son implication dans le festival, Mickaël nous a parlé du Parisianer et Marion de sa galerie et du milieu de l'illustration à Bruxelles. Et puis, ensemble, nous avons discuté de ce que l'illustration représente pour nous, comment lancer un projet collectif et créer un engouement, comment rendre son projet identifiable, mais aussi de l'importance de s'entourer d'une bonne équipe, du côté DIY et des difficultés spécifiques à n'importe quelle initiative, comment accompagner un projet quand il dévie sa trajectoire initiale, sans oublier les qualités nécessaires pour se lancer dans un projet à taille humaine. Et puis à la fin, nous avons un petit temps d'échange avec le public. Bon, au début, je reformulais chaque question et puis je me suis laissé dépasser, donc vous n'entendrez pas spécifiquement les questions posées, mais je vous ai laissé les réponses, histoire d'en faire profiter à tout le monde. Hein, on fait comme on peut. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Marie-Laure Cruchy, Mickaël Prigent et Marion de Melenard, live lors du Festival Nîmes Illustre. Bonne écoute. Salut Nîmes Illustre, est-ce que ça va bien?
Ah, ça fait trop plaisir. Je vous en prie, prenez vos micros. Ouais, voilà, comme ça. Nous, on nous entend là.
Ouais, on n'entend pas.
Non, mais t'inquiète. En fait, après, on va nous entendre. Là, on s'en fout, là, c'est pas grave, c'est pour le folklore, là, en fait. Voilà, hop, tu vois. Et puis après, au fur et à mesure, on descend, et tout, voilà. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode live et en public de Sens Créatif au Festival Nîmes Illustre. Je suis hyper content que vous êtes là. Je voudrais avant tout commencer par remercier Marie-Laure, Victoria et Margot pour
et Sarah
pour le festival
le
et
terrain,
tous les autres membres. Ils sont ?
Elles sont sur le terrain, je crois.
Elles sont sur le terrain à fond les ballons. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour discuter du fameux sujet comment fédérer la communauté créative. Aujourd'hui, j'ai avec moi Mickaël Prigent du Parisianer, Marie-Laure Cruchy, bouh, il fait chaud, directrice artistique du festival, Marion de Melenard qui nous vient straight from Belgium de Bruxelles. Ouais. Et puis on va se lancer. Comment ça va?
Bien.
Ouais.
Chaud.
Très très bien.
Ouais.
Chaud un peu. Ouais,
chaudement.
Ça va.
Ouais. Tout le monde dans la salle, ça va? Ah bah voilà. Alors je vais commencer cet épisode pas par ma traditionnelle question, qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? Je sais, vous êtes déçus, mais par vous demander de vous présenter chacun et puis aussi de vous demander en quoi l'illustration, cette discipline artistique, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Wow. Honneur à l'homme.
Honneur aux hommes. Honneur aux hommes. Alors, donc bonjour à tous, moi je suis Mickaël Prigent, je suis directeur artistique de Parisianer, qui est donc le projet qui est exposé en ce moment derrière l'espace Vauban. Donc je suis très content que vous soyez aussi là pour voir l'exposition, je suis même très fier. Donc moi je suis directeur artistique en illustration, donc c'est le projet que j'ai monté ici, Parisianer, qui est exposé en ce moment. Mais à côté de ça, je travaille aussi pour la presse, je travaille aussi pour les magazines, je travaille aussi pour des projets divers, parfois pour la musique, parfois pour d'autres supports. Et en gros, l'illustration pour moi, c'est la cour de récréation. C'est l'endroit où je me sens libre de créer, de me sentir moi-même, plus que dans les commandes que je passe à côté ou que je vis à côté. C'est vraiment le lieu où je suis dans une position un peu entre les deux. Je suis à la fois dessinateur, mais je suis aussi commanditaire. Oui. Et comme ce projet Père Eisenhower, c'est moi qui l'ai créé avec ma collaboratrice Aurélie Paulet, j'ai cette double casquette où je réponds à la fois à la commande de créer l'image, mais aussi je crée la commande du projet. Et donc finalement, c'est un terrain de jeu pour moi un peu sans fin, un peu très plaisant, j'ai envie de dire, dans lequel je me situe et que j'aime beaucoup faire.
Super. Marie-Laure ?
Donc moi, c'est Marie-Laure Cruchy. Donc je suis illustratrice vraiment de formation, je signe sous Cruciforme. Ici, là, je suis moi aussi avec une double casquette, à la fois d'illustratrice et de directrice artistique, puisque je suis en charge de la direction artistique du Festival Nîmes Illustres. C'est chouette de vous retrouver là. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment le premier moteur d'organiser un festival, c'est de pouvoir se réunir. Je crois que c'est quand même super chouette de pouvoir vous voir, vous rencontrer, se réunir là avec les d'autres illustrateurs. Je pense que c'était un peu la volonté quand j'ai intégré l'équipe du festival, qu'on a essayé de monter vraiment cette initiative dans un temps qui était une période
pas compliqué,
assez difficile,
ouais, c'est
pas
clair.
Avantageuse. Mmh. C'était vraiment dire, ben, on se serre les coudes, on est là tous ensemble à vouloir exister et on a une énergie collective à partager. Donc voilà, la casquette illustratrice pour le côté très introspectif, création personnelle, vraiment individuelle. Et puis le festival pour être plus dans l'ouverture et le partage.
Ouais. Mmh. Voilà. Super, merci.
Donc moi, c'est Marion de Melenard, je suis illustratrice sérigraphe à Bruxelles. Donc,
Ouais,
trop bien, je vis de Bruxelles. moi, en plus de l'illustration, j'ai une petite galerie où je présente plein d'illustrateurs et illustratrices belges.
Qui s'appelle
résidente. Ah,
qui s'appelle Ton Piquant.
Qui s'appelle Ton Piquant.
Et qui est un petit zeneke. Et en Belgique, qu'est-ce que ça veut dire, un petit zeneke?
Un petit bâtard.
Voilà, c'est un petit bâtard. Tu nous expliqueras pourquoi.
Tu crois? Ouais. Non, je crois qu'il faut écouter le podcast. Et puis
ah non. Oui, elle est passée sur le podcast.
Voilà. Et pour moi, l'illustration, en fait, c'est l'endroit où je me sens bien, où j'aime bien discuter avec les gens par rapport aux images. Et je suis juste une passionnée d'images. Je peux pas faire autrement, quoi. Là, j'aime trop aller voir des expos et me dire que l'illustration est vivante et qu'on la regarde et que ça nourrit l'œil. Enfin, c'est super chouette. Voilà.
C'est clair. Alors, souvent, on dit des illustrateurs et des illustratrices qu'on est un petit peu des sortes d'ours solitaires tapis au fin fond de notre caverne. On est un petit peu flippé d'aller voir les autres. On se cache derrière nos images. On fait des images parce qu'on n'a pas envie de parler. Et parfois, c'est très bien. Parfois, c'est merveilleux. Ça suffit. Mais il y a aussi ce côté genre, j'aime pas discuter. On va à des vernissages. On est tous un petit peu socially awkward. On est content d'être là, mais on n'ose pas parler aux gens, etc. Et pourtant, ici, on est tous là, rassemblés et à l'initiative aussi des plusieurs personnes ici présentes. Et j'aurais voulu vous demander, donc à vous trois, qu'est-ce qui, pour vous, en quoi c'est important de fédérer la communauté créative? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah!
Quand on s'est tous posé la question, on a tous eu un peu de mal forcément à se le figurer. Donc j'ai pris la parole. Voilà.
Ouais, je t'en prie.
Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. pourquoi fédérer? Enfin, moi, je pense que il y avait un moteur personnel, j'avoue, j'avais un besoin, je pars vraiment de moi, vraiment de moi. Mmh. J'avais un besoin exactement comme tu viens de le dire, après avoir passé une dizaine d'années finalement à être très indépendante, très solitaire en fait dans ma pratique, j'ai quand même bien pris conscience que nos métiers, si on partage pas les énergies collectives, on peut avoir tendance à se scléroser, perdre en ça on perd autant à tous les niveaux en fait, on perd en social, on perd en même en compétences, en technicité, en plaisir aussi.
Ouais. Mmh.
Et rapidement voilà, ça a mis 10 ans quand même pour en prendre conscience, mais à partir du moment où je me suis dit, je crois qu'il y a un problème là dans mon,
tu sentais
dans
un
mon
manque.
Évolution, voilà, je commence à ressentir un manque, une faiblesse. Je me suis dit comment revenir, exactement comme tu l'as évoqué, comment revenir vers d'autres illustrateurs, vers d'autres partages, modes de partage, sans devoir travestir en fait ce qui je suis, c'est-à-dire sans avoir à me pointer à tous les vernissages et taper la discute parce que c'est pas dans ma sensibilité, pas dans mon fort. Et
peut-être que, peut-être que pendant un temps, il a fallu construire pendant 10 ans ton univers à toi, ton écosystème, et t'as pu parfaire ton art. Et puis au bout d'un certain temps, tu te dis, mais en fait, je l'ai fait tout seul ce truc. Et il y a, qu'en est-il des autres?
Exactement, c'est ça. C'est que je vais te paraphraser, hein, je vais dire la même chose. Mais oui, en 10 ans, j'ai construit une carrière, et forcément, au bout d'un moment, parce que si on devient parent, on a la question de la transmission. En fait, cette question apparaît. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres maintenant que j'ai réussi à faire ça? Est-ce que je peux partager à mon tour? Est-ce que je peux donner en retour? Et c'est comme ça, en fait, qu'est venue l'envie de participer à un festival, de se réunir avec d'autres illustrateurs, essayer de promouvoir, en fait, des artistes en tout genre, parce que j'ai cet affect avec l'ensemble du champ des illustrations. Comme toi, voilà, je pense qu'on a. Et comme toi aussi, on a vraiment un amour de l'image au sens large. On n'est pas focus dans une technique, on n'est pas focus dans un marché aussi. Mmh. Et on a envie de fédérer pour partager et se sentir une force collective.
Ça. Et je pense aussi, moi par exemple, j'ai senti qu'il y avait un espace vide. La question de que de commencer à fédérer, elle se fait tout seule. Tu y penses pas en te disant
je fédérerai bien aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Je vais faire une fédération, c'est cool. Il y a une question hyper humaine. En fait, tu commences à discuter avec des gens par rapport à ton travail, souvent, je sais pas, autour d'un verre souvent. Tu commences à discuter et puis tu te rends compte que la personne en face de toi, elle fait aussi de l'illustration et que il y a un truc qui s'allume dans son regard en disant waouh, c'est trop chouette. Toi aussi tu fais ça, moi j'ai envie de le faire de cette manière-là, et il y a un soleil qui se crée. Je sais pas comment expliquer, un petit truc pétillant, et ce truc pétillant, en fait, il va le donner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fédère les gens. C'est juste, toi, tu sens que t'as l'énergie pour pouvoir donner de ta personne et donner de ton illustration, et en fait, si tu commences à le donner, ça devient contagieux. Et ça, c'est génial. C'est ça que j'aime bien aussi.
C'est contagieux comme le coronavirus.
C'est plus contagieux que le
coronavirus. C'est plus, c'est beau,
parce
c'est
que
beau.
C'est complètement gratuit et on s'enferme pas. Et ça, c'est chouette.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, au lieu d'être, tu fais bien de le mentionner, mais le confinement, la crise du Covid, nous a tous aussi re-questionné ce sentiment, ce désir d'aller vers l'autre, où déjà qu'on était, un petit peu chez nous parce qu'on fait des métiers solitaires, et c'est quelque chose que beaucoup de personnes me disent, le podcast, merci, on se sent moins seul, etc. Mais c'est sûr que dans des périodes où on est vraiment obligé de rester enfermé, il y a ce questionnement des autres.
Mais je me demande si le Covid nous a pas aidé aussi, tu vois, genre il y a un truc comme ça où,
merci, non merci.
Ouais. dans le sens, on était cloîtrés chez nous. En tant que créatif, ou soit tu restais posé et tu te reposais, parce que en général, on bosse beaucoup, ou soit tu commençais à donner, en fait, à juste faire des illus pour te faire plaisir, mais surtout grâce à Instagram, de le partager un maximum et de remonter le moral des gens. En vrai, c'est ça aussi des fois qu'on oublie dans l'illustration, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour la regarder. Et donc, résultat, à partir du moment où tu donnes un don de soi de dessiner juste pour le plaisir, le plaisir se transmet dans tes images. Et pour le coup, le Covid, ça aide parce qu'on a pu se reposer et donner à fond, quoi. Et ça, c'était chouette.
Ouais, c'est vrai. C'était un temps d'introspection pour un peu re-questionner.
Enfin, après, ça dépend des gens, mais.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que la plupart des gens qui sont ici, ils ont envie de rencontrer les leurs. Mm. Je me demandais aussi, est-ce que vous, par le passé, il y a des initiatives qui vous ont marqué? Des initiatives fédératrices, de fédération, où vous vous êtes dit, punaise, ça m'a aidé, ça m'a touché, j'aimerais bien faire pareil.
Mais je crois qu'il y a un truc qui peut-être nous rejoint tous, c'est qu'au point de départ, il y a très longtemps, moi j'étais étudiant, c'était de découvrir les fanzines. Ces gestes, ce geste un peu primal de photocopieuse, de photos, typos, collés, mélangés, qui sont un peu une sorte d'aventure graphique. Moi, c'est ce qui m'a un peu touché à l'époque.
Ouais, grave.
Et je pars de ça, j'ai retrouvé des fanzines il y a pas longtemps qui dataient de 2003, donc c'était avant Internet, au début d'Internet pour tous, avant Instagram et compagnie. Et j'ai revu justement des dessins qu'on faisait, des photocopies qu'on faisait, le truc à graffer. Et je me rappelle qu'à cette époque, c'était vraiment ce côté, on peut le faire nous-mêmes. Mmh. Maintenant, faire quelque chose nous-mêmes avec Internet et les moyens, on peut se dire qu'on peut imprimer un bouquin en Chine, etc. Mais à l'époque, ça paraissait presque une sorte de montagne à franchir. Et moi, je me rappelle d'avoir justement eu envie de créer ce truc moi aussi, d'inviter les copains à dessiner avec, etc. Donc pour moi, les premiers déclencheurs, ça a été les fanzines. Je crois que c'est ce qui m'a personnellement donné l'envie de faire des choses avec des copains et commencer à fédérer autour de ça.
Ouais.
Moi, je pense que je ressens cette même énergie du do it yourself, du c'est accessible à tout le monde. Parfois, j'en parle sur le podcast, un peu la culture un peu punk hardcore où on promotionne des concerts et on fait nous-mêmes nos flyers, on fait nous-mêmes nos affiches en photocopieuse, en noir et blanc, qu'on fout un peu partout, on invite les copains tout comme on peut. Et je pense qu'il y a cette énergie qui est possible aussi dans l'illustration et qui, enfin voilà, qui met le feu aux fesses pour faire les choses, quoi. Après, voilà, par exemple, prenons Le Parisienneur ou Nîmes Illustre. Ben, par exemple, Michael, je sais que à la base de, avant Le Parisienneur, il y avait l'association à but non lucratif, la lettre P, que t'as monté avec Aurélie. Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à monter cette association?
Alors, l'asso, quelque part, c'est un peu la capsule qui accompagne le projet, parce que nous, on a comme objectif avec Aurélie de porter les arts graphiques. C'est-à-dire qu'on fait notre maximum pour que nos projets soient à la hauteur, qu'on rémunère nos artistes et que ce soit vu dans les meilleures conditions. Mais pour ce faire, il faut une structure. Parce que si on veut payer nos artistes, si on veut se rémunérer, si on peut le faire, si on veut avoir des bonnes conditions, faut une capsule. Donc cette asso, elle sert à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, avant Parisienneur, nous, on s'est fait avec Aurélie, on s'est fait un premier gros projet ensemble qui nous a un peu permis de se dire, OK, on peut aller encore plus loin. On a lancé le projet Point, qui était... alors, il est plus en ligne, mais il y a quelques librairies qui en vendent encore. C'est un projet de BD associatif. À la base, on s'est dit, on va faire un peu comme les pattes de mouche, c'est-à-dire petit format, petit nombre de pages, facile à imprimer, et on verra si les copains sont partants pour dessiner avec nous. Et on s'est retrouvés non pas à 7 ou 8, mais à 50. On s'est retrouvé à faire 50 BD avec 50 copains, donc ça fait presque 1000 pages. Et on s'est rendu compte que justement, quand t'as une idée fixe, enfin une idée précise, et que tu la proposes aux copains, ça génère quelque chose. Donc à partir de là, on s'est dit, allez, on fonce, on fait Parisienneur. Et du coup, pour ce faire, on a monté l'asso qui pouvait un peu structurer tout ça.
Mais comment t'as fait pour te retrouver à 50 personnes? C'est le réseau que t'avais des arts déco? C'était... Ça, c'est pour moi. Pour moi, c'est quand même déjà en soi embarquer 50 personnes d'un coup sur un petit projet.
Alors ça. Ouais, mais ça c'est pas mal parce que c'est vraiment la question qu'on s'est posée avec les copains. Comment on fait pour déclencher le truc? Je sais pas comment les autres fonctionnent, mais on a toujours l'impression que on devrait faire ça ensemble, on pourrait faire ça ensemble. Il faudrait qu'on trouve le contexte pour faire ça ensemble, mais il manque le truc qui déclenche. Pendant des années, personnellement, je me suis dit, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'envie, mais comment on le fait, quoi? Et je crois que j'ai trouvé une solution, une astuce, que je donne avec grand
plaisir. Quel est le secret sauce?
En tout cas, pour nous, ça marche très bien. C'est que si tu as l'assurance d'avoir le vrai lieu d'exposition, d'avoir le vrai temps pour montrer le travail, donc pourquoi pas le vendre ou pourquoi pas le faire rencontrer auprès du public, tu peux promettre aux gens que ça arrivera vraiment. Et c'est ce qui fait pour moi la différence. C'est pas j'aimerais faire ça avec toi, c'est on va faire ça, c'est sûr qu'on va le faire, et si tu veux, tu peux en être. Et déjà, c'est un déclencheur.
Marion, toi, en tant que t'as une petite galerie, t'as un atelier qui est une galerie, tu raisonnes par rapport à ça?
À fond. Bah, en fait, c'est tout de suite plus facile quand t'as un endroit. Déjà, les gens peuvent se situer, venir te voir et dire hey, salut.
Oui.
Est-ce qu'on ferait pas des choses? Parce que de toute façon, t'as un lieu d'exposition.
T'es identifiable, en fait.
Ouais, c'est ça.
Quand tu crées une marque, ou un lieu, ou un média, ou un fanzine, ou un festival, t'es identifiable. Et donc, du coup, tu crées un aimant pour toutes ces personnes qui aimeraient, qui sont attirées comme des abeilles vers le miel. De moi aussi, je veux en être, quoi.
À fond, ouais. C'est ça.
Et ton expérience de galeriste, du coup, comment ça se passe? Parce que je sais que t'es une motivée à fond la caisse et que du coup t'as envie de faire bouger les choses.
Ouais.
Un truc qui m'avait aussi vachement surpris quand je m'étais un peu plus, j'avais fait mes petits devoirs pour l'épisode par rapport à ta galerie. Tu disais que ben l'illustration, et c'est sûrement quelque chose que tu partageras aussi avec Marie-Laure. Enfin, il y avait le désir de la promouvoir, mais aussi que à Bruxelles et en Belgique, elle était pas assez. Assez représenté.
Non, bah on est des bébés à Bruxelles.
C'est surprenant parce que bon, la Belgique, le pays de la bande dessinée, quoi. Genre, mais c'est pas l'illustration. C'est.
Bah, la BD fait partie de l'illustration.
Ouais,
okay. Après, peut-être je vais me faire huer, mais je pense que c'est ça, genre l'illustration en gros, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui est beaucoup DIY en fait à Bruxelles. On prend ça moins au sérieux. On aimerait être plus pris au sérieux, mais. Il y a un côté où on fait et puis c'est tout et on commence pas à se prendre la tête de savoir est-ce que je vais avoir des commandes ou pas, je sais pas, on produit en fait. Et c'est ça qui fait que on a eu une énergie, mais on oublie aussi, et ça c'est hyper chiant, c'est on oublie de communiquer sur les choses qu'on fait.
Ah oui.
Donc, ouais, pour des communicants, c'est peut-être un peu embêtant. Mais
je pense que c'est un problème qui est assez large dans notre communauté, parce que quelque part, on aime faire des images, mais une fois que c'est fait, on n'a plus vraiment envie de dire « Hey les gars, coucou, regardez, on va le mettre sur Instagram et penser que ça fait le job. »
C'est ça.
Et tu vois, par exemple, ben, pour un festival comme Nîmes, enfin Nîmes s'illustre, tout le travail de fou que vous avez fait avec la presse, avec le site internet, avec la promotion, avec c'est un travail pharaonique que... Enfin, moi, personnellement, je suis admiratif. Hein, je sais pas comment... Ouais, voilà. Parle-nous de ce travail d'équipe, ouais.
Le travail d'équipe... moi, je découvre. Hein. Alors, je vous le dis clairement, j'avais pas d'expérience dans des structures associatives. J'avais pas... Voilà. J'étais vraiment novice. Donc, j'ai vraiment découvert le travail d'équipe via le festival. Et donc, on se répartit vraiment des tâches en fonction vraiment de nos... Évidemment, de nos... territoire de compétences, ça va de soi. Mais quand on a une toute petite structure, faut quand même aussi savoir être polyvalent, pluridisciplinaire, se faire pour se prêter au jeu de toutes les strates
ouais.
en fait
ouais, ouais, ouais.
De l'exercice. Donc ça se sent très vite. Hein, ceux qui sont à l'aise à la communication, ils y vont. Voilà, Margot, elle est là et elle est très forte dans cet exercice-là. Donc elle le prend à bras le corps et puis elle a cette grande force d'arriver à embarquer elle aussi des personnalités qui ont beaucoup de compétences aussi. Et voilà, c'est comme ça que l'équipe se construit. Moi au sein du festival, je suis plus dans une direction artistique. Donc je pense plus dans la réflexion. Je suis plus dans la réflexion de construire le projet, de le réfléchir, de le transmettre après aux personnes avec. C'est un dialogue avec les scénographes, par exemple, pour vraiment aller au bout de l'exigence et faire en sorte que ce soit vraiment faisable avec le degré de conviction qu'on en a. Mais comme ça, voilà, c'est des pôles qui se construisent pour qu'au final, d'un projet qui naît à trois personnes, où c'est déjà en soi un petit collectif, mais juste trois personnes, au fur et à mesure de l'année, le projet s'étoffe de compétences, de bras, pour au final être une vingtaine de bénévoles, de gens vraiment investis, passionnés, qui le font très généreusement. Enfin, ça, c'est d'un précieux, en fait, dans nos vies, dans notre quotidien, d'avoir aussi ça, en fait, à côté du travail de commande, où on est vraiment sur être rémunéré au juste prix. C'est toujours une question difficile. De sentir qu'il y a encore des énergies, des volontés de faire et de partager de manière généreuse. Pour qu'un projet comme ça, comme un festival qui, dans une petite ville, qui a pas forcément une dynamique très grande, ben, existe quand même, parce qu'on a besoin tous de partager un peu plus que ça. Donc voilà, l'équipe s'est étoffée, une vingtaine de bénévoles nous a rejoints, et ça se construit comme ça.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à la base de, parce que créer un festival, et je sais que vous avez des grandes ambitions pour ce festival, qu'est-ce qui vous a motivé de se dire « Allez, on va se lancer dans ce truc absolument... »
Mais c'est de l'inconscience. Hein. Je crois que
on a besoin, en fait, d'inconscience et d'insouciance
pour se lancer. Je crois sincèrement...
Si on était au courant de tout ce qui va nous attendre, on ferait rien, en fait.
Ouais. Non, mais c'est surtout si tu raisonnes trop, tu fais jamais rien.
C'est ça.
Il faut arrêter de réfléchir, avoir peur de rien. T'y vas, et puis voilà.
Ouais.
Puis au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Ça se casse la gueule, tu le fais pas, et tu passes à autre chose. Au moins, t'auras essayé, quoi.
J'aime ton état d'esprit.
Et puis il y a un truc assez surprenant finalement, c'est quand on a une idée qu'on porte vraiment, qui nous tient à cœur. Moi j'ai découvert il y a quelques années en lançant des projets, c'est que finalement on nous suit. Les gens veulent en faire partie. Alors si on peut les rémunérer, faut le faire. Mais en tout cas en termes de bénévolat, de bonne motivation, d'apport, je sais pas, t'as besoin de bouger des cadres, on te prête un camion, t'as besoin de stocker quelque chose, t'as toujours des gens qui sont disponibles.
Oui.
Et ça, c'est un truc, c'était pas ma culture, je pensais que chacun dans son coin, chacun faisait ce qu'il avait à faire, il y avait une sorte de frilosité à partager et à aider, et je me suis rendu compte que non. Alors, faut pas, du coup, en abuser, hein, c'est pas du tout l'idée. Mais par contre, de se rendre compte que si on a une idée qu'on porte, et ben finalement, les copains sont là pour aider. Et
ça, oui.
C'est une équipe. Une énergie
et... J'imagine qu'il faut une énergie initiale suffisamment forte pour que d'autres. Il faut que quelqu'un se dévoue quelque part, que quelqu'un débute le truc. Vous avec la lettre P, Nîmes s'illustre, ton piquant, et il y a probablement au début une énergie nécessaire pour que les autres personnes se disent ah non mais c'est vraiment un truc qui me donne envie. Mais je crois enfin, on a rien sans rien, quoi.
Je crois que ça nous dépasse un peu. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je me suis pas posé de questions, en effet. Mm. Je savais toutes les étapes qu'on allait devoir franchir plus ou moins globalement. Mais dans les faits, tu fonces, quoi.
Ouais.
Il y a une envie, en fait. C'est une force moteur qui te pousse à te lever le matin. Mm-hmm. Où tu te dis, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et s'il y a des gens qui me suivent, c'est encore mieux. Mais dans tous les cas, ils suivront parce que si c'est une chouette idée, et l'illustration, c'est trop cool. Ça suit, quoi.
Moi, je sais que c'est pour ça que je pose toujours sur mon podcast la première question. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Je sais que régulièrement, une personne sur deux va me dire mon fils, mon café, mon bébé, mon travail. Mais je sais que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce truc à l'intérieur qui te motive à aller bouffer le monde. Et je sais que je voudrais faire une petite dédicace au Patate Club parce que je veux dire le sens créatif pour moi c'était une quête personnelle, quoi. C'était un truc que j'avais envie de, comme vous, c'était le truc qui me faisait kiffer moi. Et puis après au fur et à mesure des personnes qui se sont greffées au projet et moi en fait je peux pas tout faire. Genre comme toi pour Nims Illustre, il faut s'entourer d'une équipe. Et moi, gros cœur pour les membres du Patate Club qui se volontarisent, qui font des initiatives, qui prennent le lead de plusieurs parties dans la communauté ou des choses où moi je pourrais pas m'en occuper. Et je pense que voilà justement de suivre son cœur et de pas trop réfléchir. Et puis de faire les choses bien parce que tous les quatre ici on fait les choses bien. Il y a ce désir d'excellence. Mais peut-être de pas trop réfléchir quand même, de vouloir faire les choses bien, mais voilà, comment ça s'est passé pour vous, je sais pas où je vais avec ça, mais...
Je crois qu'il faut pas tout faire soi-même.
Ouais.
Il faut surtout pas faire soi-même. Mmh. On a tous vu des exemples de projets qui valaient le coup, bien évidemment, et une personne tient tout, et finalement, c'est trop de boulot.
Ouais.
Et petit à petit, ça se démotive, ça prend pas d'ampleur. Et il faut compter, en effet, sur la communauté de ceux qui nous entourent, accompagnent, pour aussi en parler.
Ouais.
Donc, ne pas faire tout seul, surtout pas.
Ouais.
Puis il faut accepter de lâcher le bébé. Enfin, c'est bien d'avoir une idée, mais elle se développe au début avec toi, et au fur et à mesure, elle se transforme. Et il faut accepter aussi la transformation, parce que c'est ça qui fait que ça va aller plus loin. Et ouais. D'accepter que t'es à l'origine du truc, mais au final on s'en fout du moment que ça devienne quelque chose et que ça devienne chouette et que tout le monde se marre en fait. Voilà.
Comment votre bébé s'est transformé? Comment parce que votre bébé s'est transformé, enfin clairement.
Ça nous échappe.
Ouais.
Oui.
Et comment vous avez parce que je pense que dans nos métiers on peut parfois être précieux sur que ce soit nos images, mais aussi nos initiatives. Ou prenons Nims Illustre, le Covid l'an dernier qui fout tout par terre et puis vous avez pas lâché l'affaire, vous avez continué. Le Parisienneur qui a eu plusieurs éditions, qui ensuite il y a eu le Tokyoeur, le Montréaleur, le Brusseleur, enfin plein de choses comme ça.
C'est mon bébé, je suis grand-père maintenant. Parce que
ah c'est beau, t'as plusieurs enfants
ça
maintenant.
Fait des petits,
ouais. Ouais. Bah oui. Et vous avez eu, c'était facile pour vous de lâcher prise ou
ouais. Plusieurs enfants au final.
Ouais.
C'est pas trop lourd à porter, ça va?
Non, c'est plutôt agréable. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu crées un truc et que t'as l'impression que les gens vont suivre le processus, tu te sens assez fier. Alors, tu contrôles pas. Déjà, nous, on contrôle pas forcément ce que les gens perçoivent en exposition. On envoie un message, on envoie un signal, mais on maîtrise pas ce qu'il y a ressenti. Par contre, quand tu vois des gens qui font comme toi, à sa propre sauce, à leur propre sauce, tant qu'ils me font bien, c'est assez touchant, quoi. C'est assez flatteur. Moi, je suis assez content. Alors après, je maîtrise pas tout et je suis pas dans la boucle avec eux, mais non, je trouve ça assez, assez chouette.
Ouais, vous voulez rebondir, non?
Moi, je sais que par exemple, là, c'est une des questions qu'on a en ce moment à Ton Piquant, parce que on est passé en mars de 4 à 7 personnes, parce que dans mon atelier, on a récupéré un étage de l'immeuble. Et pour moi, c'était important d'avoir une réunion au bout de un ou deux mois avec les sept donc illustratrices du collectif, parce que ce que je leur ai dit, c'est voilà, mon idée de base de ce que c'est Ton Piquant, c'est ainsi, mais enfin, je dois arrêter de penser comme ça. C'est maintenant mon idée de base, c'est notre idée à toutes. Et je pense que des fois, ça vaut le coup pour les petits collectifs, peut-être pas pour les gros projets. De refaire un aplat et d'en rediscuter et d'accepter que ça se transforme autrement, tu vois.
Ouais. Moi, je me souviens, j'ai eu ce questionnement fin 2020 où je réfléchissais à la suite du Patate Club et quelqu'un m'a dit, mais est-ce que t'as déjà demandé à ta communauté ce qu'ils aimeraient? Parce que je réfléchissais à comment développer Et moi, j'étais genre, ah non, c'est vrai, j'avais ce côté un peu genre, ben, c'est moi un peu le chef d'orchestre, non? Donc, je suis censé tout savoir ou un petit peu avoir des idées, mais en fait, j'étais à court d'idées. Et puis, j'ai posé la question à la communauté. On a un groupe WhatsApp, on a un Discord, etc. Et puis, les personnes ont dit, mais en fait, on aimerait des ateliers. Mais on a conscience que, en fait, avec le Covid, les confinements et tout, on peut pas se voir. Ah ben, du coup, des ateliers en ligne se sont improvisés. Et les personnes ont commencé à faire des initiatives, à faire un workshop lettrage, un workshop Procreate, un workshop indie, un workshop mathématiques, un workshop créer des gifs animés sur Instagram. Et c'était formidable parce que quelque part, en fait, quand on demande à la communauté, qu'est-ce que vous aimeriez? Ah ben, comme tu dis, on met un peu les choses à plat et ça nous dépasse. Est-ce que vous avez vécu ça dans vos projets?
Moi non, pas encore.
Sûrement qu'à la fin de cette édition, il y aura...
Ouais, voilà, c'est ça, on est encore dedans dans la construction pour que le festival existe là maintenant.
Oui, c'est déjà une prouesse.
Ouais. Voilà, c'est une première, donc j'ai pas assez de recul, toi, peut-être, oui.
Nous, c'est un peu différent parce que c'est pas tant une communauté... dans le sens groupe qui travaille ensemble, c'est plutôt une communauté qui bosse sur le même projet.
Oui.
Donc notre boulot avec Aurélie, c'est de trouver des plans, de trouver des expositions, de trouver des collaborations, d'avoir des nouvelles idées à proposer à des interlocuteurs. Donc on est plutôt l'intermédiaire entre un commanditaire, par exemple pour le coup là le muséum, et nos artistes qu'on va faire travailler. Donc certes, les artistes remontent des idées, remontent parfois des idées sur autre chose, des propositions, mais on est plutôt en train de redescendre une commande sur une communauté que de mettre à plat des envies communes parce que le projet est déjà en soi assez cloisonné.
Oui. Ouais, ce serait compliqué.
Assez défini.
En fait, c'est dans un schéma, on va dire, plus classique, plus traditionnel, mais qui a tout autant de force et qui porte, enfin voilà, des expositions comme vous l'avez monté au Jardin des Plantes. Enfin moi, je trouve ça vraiment d'une, c'est ouvert à tout public, c'est extrêmement présent dans l'espace, c'est généreux, c'est un collectif, voilà, c'est une vingtaine d'illustrations qui sont faites avec beaucoup de talent, même si c'est un travail de commande. Finalement, des ouvrages collectifs, il y en a assez peu parce que c'est toujours complexe à mettre en œuvre. Et pourtant, c'est précieux en fait dans le paysage de l'image, dans le paysage de l'édition, dans le paysage des expositions d'illustration. En fait, c'est assez rare.
Ben, je suis ravi que tu le vois comme ça parce que comme t'es dedans dans le projet,
je le dis pas pour me c'est pas pour me flatter. Hein, c'est moi, je suis vraiment un spectateur.
Je suis très d'accord avec ce que tu dis dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant en termes de communauté, c'est que justement Marie-Laure, nous, on a fait un premier bouquin ensemble, Parisianer, il y a 8 ans. T'es dans ce deuxième, 8 ans après. Et la communauté, c'est aussi ça, c'est aussi une illustratrice qui, du coup, monte un festival et qui nous invite à exposer avec. Et au final, c'est comment la communauté s'agrandit, comment le réseau se tisse avec le projet. Ça, pour moi, c'est un peu la richesse, même c'est ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire on discute, hier, on papotait avec d'autres copains. Qu'est-ce qu'on peut imaginer après, hors les murs, etc.
Et alors, moi, j'ai une question, pardon, tu voulais rebondir? Non, j'ai une question par rapport au Parisianer. Je pense que il y a du méga beau monde dans le Parisianer, genre tout le gratin de l'illustration est dedans. Et j'ai cru comprendre que quand vous l'avez lancé, la première expo en 2013, il y avait déjà 107 artistes les plus reconnus. D'où tu expliques cet engouement? Est-ce que c'était juste la bonne idée de faire un équivalent du New Yorker? Est-ce que c'est ton réseau? Comment t'expliques cet engouement immédiat des grands noms de l'illustration?
Alors, ce qui est marrant, c'est que 2013, c'était un peu une autre époque. En tant que bouquin, il y avait très peu de bouquins avec 50 dessinateurs, voire 100 dessinateurs sur une thématique. Maintenant, on en voit beaucoup, mais ça se faisait pas beaucoup. En plus, par rapport aux réseaux sociaux, c'était pas pareil. On avait tous Instagram, mais c'était pas cette course à la communication, au post, au like et à sa propre vitrine.
Ouais.
Donc, il y avait ce truc un peu qui fait que proposer un projet, s'il est assez fort, ça peut générer un engouement. Donc c'est ce qu'on s'est rendu compte. Et aussi le fameux truc, on avait une salle d'exposition de 500 mètres carrés à la Cité des Arts, face à la Seine, en décembre. Donc on avait la certitude qu'on pouvait assurer le projet si les gens nous suivaient.
Ah oui. En fait, dès le début, on dit d'entrée de jeu, on n'est pas des rigolos, on va faire les choses bien. On a eu des autorisations, on a été accueillis, tout comme ici, par exemple, à l'Université de Nîmes, pour bien faire les choses, etc. Et donc du coup, ça donne envie de se motiver.
Puis il y a un côté chouette de faire une couve, en fait. Je pense que tout le monde ne peut pas forcément le faire ou on n'a pas forcément la commande de le faire. Donc quand on dit « fais une couve », moi j'ai participé à The Bruxeller justement. Okay. Et donc quand, merci à toi. Mais quand on me l'a proposé, je me suis dit trop bien, trop chouette, je vais faire une couve, mais qui sera pas sur un magazine, je m'en fous. Mais l'idée de faire une couve, ça me faisait trop plaisir. Et je pense qu'il y a ce truc là aussi, en plus de le fait que ça va être exposé, parce que nous on n'a pas pu voir l'expo.
Non.
Mais
c'est trop nul.
C'est l'idée de faire une belle illu avec une belle typo. Enfin, ouais. C'est cool.
Et comment t'as eu l'idée et t'as écrit à, je sais pas moi, 200 illustrateurs que t'aimes bien et des 200 illustratrices, tu t'es dit ça vous dit, on participe, ou enfin je veux dire c'est aussi simple que ça, ou
bah alors, oui et non, enfin ça pourrait se résumer à ça, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus dense en termes de d'habiter le réseau. En fait, c'est vrai que le truc de la couverture, c'est un peu déclencheur. Nous, on avait ce fantasme absolu que beaucoup d'illustrateurs ont de faire la couve du New Yorker. C'est un peu le truc à atteindre. Et c'est vrai que la place en illustration d'être sur la couverture, c'est un peu la meilleure. Comme sur une affiche de cinéma. En tout cas, on est vraiment en façade, quoi. Donc, après l'expérience de Point, avec les 50 bandes dessinées, les 50 copains, on s'est rendu compte qu'il y avait une émulation autour des projets collectifs. On s'est dit, mais si on mettait la barre un peu plus haut, si on tentait l'étape supérieure. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué sur le premier réseau de copains, celui de Point, celui des copains au sens école, au sens proche. Et on a fait un petit dossier pour séduire, un petit dossier pour expliquer le projet, un petit dossier pour raconter ce qu'on voulait faire. Et après, c'est le bouche à oreille. On visait 100 dessinateurs, on en connaissait une quarantaine, on était sûr que 30 pouvaient nous suivre, mais on souhaitait jouer sur le réseau et atteindre 100. Et tout ça, donc mail, dossier, la couverture, tout ça mélangé, fait que ça a déclenché une envie de nous suivre.
Hey, j'interromps quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon, ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode.
Bon alors tout ça c'est bien beau, ça met plein d'étoiles dans les yeux. Mais moi, je suis curieux de savoir quelles sont un peu les difficultés peut-être que vous avez rencontrées. Parce que je pense que des gens qui ont des envies, des initiatives, il y en a plein. Mais quand on se retrouve dans le dur, comment ça s'est passé pour vous?
Moi, perso, le dur, c'est... Il y a des moments où tu as juste plus d'énergie, en fait. Déjà, pour toi, en tant qu'être humain, des fois, c'est compliqué. Mais quand tu commences un projet collectif, il y a des fois... j'arrive à l'atelier, je suis crevée, j'en peux plus. Et le fait d'être en collectif, ça aide vachement. Maintenant on est 7. Il y en a toujours une pour être un peu plus raplapla que les autres. Mais comme les 6 autres, elles sont dans le mouvement, elles bossent, elles font des trucs. Ça porte, en fait. Et donc, je crois que, quand je suis dans le dur, j'ai juste une super équipe. Donc, ça pose pas de problème.
Ouais, une bonne équipe de Power Rangers bien sélectionnée.
Ouais, c'est ça. Enfin, bien sélectionnée. J'ai pas sélectionné les gens.
Non, mais ça s'est fait. Il y a une alchimie.
Il y a eu un petit sourire, ouais. On s'est regardé, on s'est dit, ouais, c'est bon.
Et pour vous?
Moi, je dirais que ce qui m'est difficile, mais c'est aussi, encore une fois, plus dans mon parcours de manière générale, c'est lorsqu'on se heurte à comment le définir? Une sorte de cloisonnement, en fait, des genres. Je dirais que quand on essaye d'embarquer, en fait, des illustrateurs dans un projet, qui font partie de familles graphiques, d'univers, d'héritages très, très différents, de marchés très différents, ce qui est difficile, c'est de faire entendre que on est tous dans le même bateau, on est tous avec le même désir, en fait, de trouver notre place dans tout ça, et on est tous frères, cousins, quoi. Et qu'il n'y a pas à se juger un peu en chien de faïence, dire ah ouais, toi t'as choisi ce camp. Moi, j'ai un peu cette sensation là depuis de nombreuses années, et je pense que c'est ça qui m'a aussi motivée.
Puis il y a pas, c'est un peu, il y a pas ça.
Mais faut pas qu'il y ait ça.
Oui, oui.
Il y en a en réalité. Moi, je l'ai vécu vraiment à titre personnel, de me sentir pas acceptée à une époque où Je sortais des arts déco, j'avais réussi un petit peu à faire mon petit chemin dans la presse, je faisais de l'illustration de commande et j'admirais un collectif qui était plus dans de l'illustration avec une posture beaucoup plus artistique, ou en tout cas du livre d'artiste. Et à ce moment-là, j'ai eu un retour qui a été pour moi d'une extrême violence. Je me suis sentie rejetée parce que j'étais identifiée comme quelqu'un qui faisait de l'illustration de commande. Donc, il y avait une forme de... qui avait un manque de noblesse, quelque part, dans ce...
Ah oui, oui, oui.
Et je pense que ça m'a beaucoup marqué et ça m'a motivé, en tout cas, au sein du festival, à dire, voilà, l'illustration a des territoires très vastes, très variés, des marchés d'expression très différents, des individualités très différentes, mais tous on peut cohabiter et on peut apprendre les uns des autres. Ouais, voilà. C'était vraiment une réponse à la question.
Preach, voilà. Sister. Voilà.
Mais c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai senti ça pendant mes études où j'étais à la Cambre et j'ai fait de la typographie, graphisme, et ce côté communautaire un peu bizarre, enclavé. Je l'ai direct rejeté, je supportais pas ce truc-là, en fait. Et en montant ton piquant, c'est le premier truc que je me suis dit, c'est la porte sera ouverte, on s'en fout.
Oui.
Et c'est hyper, hyper important, en fait. Et je crois que c'est ce qui me mène un peu tout au long de mon parcours, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu rentres, on discute, quoi. Et c'est comme ça qu'on fédère aussi.
Donc, en fait, un point commun que je vois, c'est une difficulté initiale, quelque chose qui nous fait mal, et où on se dit... pas moi. Parce que, je veux dire, moi, je sais que quand j'ai débarqué à Paris, je dis tout le temps la même chose, mais bon, que voulez-vous, c'est mon histoire, c'est mon podcast. Mais quand je suis arrivé à Paris en 2013, je connaissais personne dans le milieu de l'illustration. Juste un ami commun qui m'avait recommandé Laurent, et c'était tout. Je connaissais juste ce nom, tu vois. Et en fait, j'ai fait plusieurs rencontres, dont par exemple donc Laurent, Max Stefanini, Claude, c'est un peu les trois qui pendant un bout de temps j'ai toujours pu bénéficier de conseils. Et après je me suis dit mais moi si je bénéficie de ces conseils de ces personnes, je peux pas juste les garder pour moi, parce qu'en fait moi j'avais une difficulté, on m'a aidé, et en fait faut dire ce qui est, c'est quand même pas un métier évident tous les jours. Bon, c'est une économie fragile par moment, pas que hein, mais c'est pas toujours simple. Et donc du coup, quand on apprend à connaître les gens, ça me paraît normal de simplement. Donc voilà, quand on a une difficulté, on a reçu ou on n'a pas envie de reproduire la même, je sais pas si je peux dire blessure, mais bah si c'est une blessure, hein, ce que tu as ressenti, c'était violent. Et donc du coup, on a envie de. Ah, j'aime bien cette expression qui dit create ou give what you didn't get, tu vois. Créer quelque chose qu'on n'a pas eu, un manque, et de se dire, pas être fataliste et de se dire genre bon bah tant pis, le monde il est trop injuste, ouin, mais de se dire bon allez, on va se serrer les fesses et on va faire un truc, quoi.
Et puis surtout, tout le monde galère. Enfin, c'est juste que des fois, on regarde les Instagram ou les gens et on se dit oh, tout est facile pour lui ou pour elle, gna gna gna. Et en fait, quand tu commences à aller le voir en vrai ou l'avoir en vrai et discuter avec, tu te rends compte que c'est la grosse galère. Instagram, c'est juste de la poudre aux yeux. Et non, des fois, il n'arrive pas à payer son loyer, ou c'est compliqué, ou il est toujours en train de douter par rapport à ce qu'il fait. Et en fait, le fait de discuter et de te rendre compte de ça, d'expliquer aussi que t'es en galère ou que t'as pas de galère, mais tu peux peut-être l'aider, et ben tu crées autre chose, en fait, une nouvelle énergie, et c'est tout vrai. Le monde se relève, en fait. C'est ça qui est chouette.
Oui. Voilà. Ouais. C'est aussi mon désir en allant à la rencontre de personnes très reconnues dans le milieu, dans l'illustration aussi, de désacraliser un peu ces métiers et de se rendre compte qu'au final, on partage tous un peu cette humanité, les mêmes difficultés, mais à des échelles différentes. Et ça rassure beaucoup, je crois, les auditeurs qui se disent « Ah oui, ben moi aussi, et je peux aller parler à Marie-Laure, je peux aller parler à Mickaël, je peux aller à Marion, que je suis peut-être sur Instagram depuis longtemps et que je me dis « Il ou elle aura pas le temps de me parler. » En fait, au final...
C'est vachement apaisant. Je crois que moi, j'ai été apaisée au moment où j'ai pris conscience que je pouvais discuter facilement, en fait, avec tous ces gens-là que on a tendance à admirer, à mettre, comme tu dis, sur un piédestal. Ouais. Dès que tu sens que finalement, on est tous pareils, avec les mêmes doutes, ça t'enlève vraiment c'est pas juste une solitude, c'est vraiment une inquiétude. Je crois que ça m'a vraiment apaisée de me retrouver sur les Meet the Talent, par exemple, où finalement c'était un temps où on pouvait vraiment partager avec de nombreux autres illustrateurs, ou même artistes au sens large, quoi. dès que tu t'enlèves cette peur ou cette crainte, bah déjà ça, tu sais que tu peux recommencer à avancer avec un peu plus de sérénité et te focaliser vraiment sur le plaisir de créer, quoi.
En fait, c'est créer des lieux de rendez-vous pour que les gens se retrouvent et qu'ils passent un bon moment aussi, pas bricoler le truc, faire la chose bien, et puis quand les gens viennent, ben. Mais c'est sûr qu'il faut réussir à dépasser ce sentiment d'imposteur. Qu'est-ce que moi je vais aller faire là? Ou bien cette peur d'aller vers l'autre personne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous avez dû surmonter?
Moi, j'ai observé un glissement en tant que position. Il y a 8-10 ans, on allait vers les autres pour leur demander de bosser avec nous. On allait vers les gens et on a eu la chance d'être très bien reçus. Que ce soit de la part de mecs extrêmement connus, de gens moins connus, plus cryptiques, peu importe, tout le monde, en tout cas dans ce métier, j'ai l'impression, est assez généreux en communication. Pas forcément disponible, mais quand tu arrives à les rencontrer, on t'écoute, on te donne un peu de temps et on t'encourage à le faire. Et donc nous, ça nous a poussé à y croire, en fait. On s'est dit, en fait, ces mecs sont accessibles, pas forcément dispo pour nous, mais dans l'absolu, on a eu quelques refus au départ de gens extrêmement connus, mais qui nous ont dit pourquoi ils refusaient ou pour des très bonnes raisons. Et finalement, on a été respectés. Et petit à petit, le projet grandissant, on s'est retrouvé un peu à être identifié, à être suivi un petit peu et à être visible. Et maintenant, on reçoit, nous, des demandes de participation, de collaboration, etc. C'est même pas qu'on se doit de le faire, c'est que c'est naturel de faire un maximum d'efforts, de faire un maximum de gestes envers ces gens qui viennent vers nous pour leur montrer que soit on peut pas honorer la demande, soit on peut le faire, mais le maximum qu'on peut donner en échange d'humanité, de bienveillance, c'est obligatoire. Parce que sans ça, on se tire dans les pattes, on n'avance pas et on fait rien. Donc, ça compte, je pense.
Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Alors, on a tous passé une année et demie un petit peu chelou. Et c'est aussi une période de grosse remise en question. Hein. Beaucoup de gens se sont remis en question. Les formats, la manière de travailler, la manière de se rencontrer. Je me demandais, est-ce que vous avez observé peut-être des besoins dans le milieu de l'illustration, ou est-ce que des nouvelles manières d'aller à la rencontre de l'autre, de fédérer des communautés, est-ce qu'il y a des nouvelles choses, est-ce qu'il y a des besoins que vous avez identifiés? Et je me pose la question, comment on pourrait répondre? Marion.
Pardon. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que, au moins à Bruxelles, mais j'imagine que c'est un peu partout comme ça, c'est qu'on se parlait beaucoup sur Instagram, mais qu'on voyait pas vraiment la tête qu'on avait. Donc, tu connais les noms, tu connais le travail. Tu peux te croiser dans la rue, mais tu vois pas qui t'es. Et donc, dans une petite ville comme Bruxelles, je trouve ça vraiment triste. Et donc, par exemple, là, une fois que ce sera vraiment fini, et qu'on pourra aller boire des coups, moi, j'avais envie de créer une sorte de pot conférence, conférencière, ou je sais pas comment dire, mais sur une table, t'as toutes tes petites étiquettes avec ton petit nom Instagram, avec sur invitation. Tu prends ton petit nom Instagram, tu te le colles sur la poitrine, et tu vas boire des coups. Et en fait, on va se rendre compte que tout le monde se connaît, et on va enfin mettre des têtes dessus. Et on va vraiment parler. Parce que Instagram, c'est chouette, parce que tu commences à rigoler, tu dis souvent tu, alors que tu connais pas. Mais il manque un truc. Il manque l'aura de la personne, il manque le sourire, il manque la connexion. Et en fait, plus tu connectes les gens en vrai, plus tu commences à réseauter, en fait, tout simplement. Et tu deviens plus fort.
Voilà. C'est vrai. Des choses que vous observez? Enfin, déjà, avec le festival, vous répondez déjà à un besoin, ne fût-ce que de créer un gros festival emblématique de l'illustration en France. Ouais. Voilà, ça n'existait pas encore. Donc, check,
ouais.
À suivre.
Enfin, c'est ouais.
Cool. Ben ouais.
Ça va prendre du temps à mettre tout ça vraiment à la hauteur de ces grandes ambitions.
Oui,
mais
bien sûr.
Mais ouais, bon, voilà, on va voir.
Bon, après, ça peut aller vite aussi. Hein.
Ça peut aller.
J'estime qu'on a mis quand même la barre assez haut, je crois, sur une première édition qui, avec le parcours, avec les réalités qu'on a traversées, ouais, on a mis après beaucoup de choses. C'est le collectif, c'est une structure, comment dire. J'aime bien faire le va-et-vient entre le travail collectif là au sein du festival et revenir aussi sur mon activité personnelle parce que aussi ça me permet d'avoir à nouveau du contrôle. Là clairement.
Oui, te recentrer.
Là clairement, il y a beaucoup de choses qui m'échappent et c'est très difficile justement de faire évoluer son enfant. Je suis plus un spectateur en fait de son évolution que enfin.
Oui.
Je dis ça, mais c'est évidemment on l'accompagne, mais. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui t'échappe un peu. Donc, je sais pas, je dis tout ça, je sais pas pourquoi.
Non, mais...
Mais je crois que tu feras le point aussi une fois que le festoche sera fini.
Exactement. Parce que... Là, je suis pas capable de faire le point.
Mais avec ton piquant, on a organisé à notre échelle des marchés de l'affiche. Donc, on en a fait 3. Au début, c'était un tout petit truc à ton piquant, et après, on en a fait un plus gros où on avait une trentaine d'illustrateurs et illustratrices qui montraient leurs affiches, leurs prints, etc. Franchement, pendant tout le festival, tu vois rien, t'es occupé à répondre à plein de choses. Et en fait, c'est à la fin, une fois que t'as bien dormi au moins deux nuits, trois, où tu te rends compte aussi du rebond, en fait.
L'émulsion
que ça a donné, les artistes qui te répondent, ah, c'était trop cool, alors que toi, t'as rien vu. Et après, dans la durée aussi de ce que ça donne, enfin. Il y a peut-être d'autres trucs qui se sont créés juste parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au marché de l'affiche. Bah, par exemple, il y a une de mes nouvelles collègues qui était au marché de l'affiche et il a dit, il y a une place à ton piquant. Oui, vas-y, viens. Et tu vois, c'est déjà une toute petite chose, mais c'est déjà beaucoup, en fait. Donc, c'est super.
Puis je pense qu'il faut aussi accepter le fait que on saura pas tout.
Ouais.
C'est-à-dire que, a priori, quand on lâche quelque chose dans l'espace public ou un bouquin ou des images, on peut pas savoir comment ça touche les gens. Il y a peut-être, je me rappelle un jour, c'est un truc qui m'a touché aussi, c'est que dans un livre, American Illustrator, enfin ces bouquins où les Américains qui montrent leur travail, une artiste avait mis comme référence The Parisianer. Alors qu'on s'est parlé très peu par Internet, elle a fait une très belle image, on a échangé sereinement, mais voilà, c'était une collaboration simple. Et finalement, il y a des gens qui ont revendiqué ce travail dans d'autres supports, ou alors je croise des gens dans la rue, des copains de copains qui ont une affiche chez eux, je le savais pas, et finalement ça me touche également. Ou des gens qui se rendent compte à un moment que ça les a influencés, qui se mettent à travailler pareil et qui nous le disent plus tard.
Ouais.
Voilà, tout ça pour dire que finalement on fait quelque chose, mais il faut accepter que ça nous échappe et qu'un jour peut-être on aura un retour, mais sinon on l'a fait a priori pour qu'il soit accessible.
Pour la beauté du geste, pour qu'il existe. Et puis on a eu des influences, ce qu'on crée influence d'autres. Enfin, je sais que moi par exemple, il y a d'autres podcasteurs qui m'ont montré que c'était possible et où je me suis dit mais en fait en France c'est possible de le faire aussi. Et puis il y a d'autres personnes en France aussi qui m'ont inspiré. Et puis après, si un jour, enfin moi j'espère que peut-être d'autres personnes pourront continuer ce mouvement. Enfin, c'est déjà ce qu'on voit un petit peu sur dans le Patate Club, qui moi c'est une communauté en ligne. Alors pour le coup, qui s'est vachement développée aussi avec le Covid parce qu'on pouvait pas se voir, donc les gens étaient avides de se rencontrer, mais en ligne. Et donc on a créé cet endroit. Enfin, à l'initiative, c'était même pas mon initiative, c'était Laurent et Lucille que je salue au passage. Et puis le truc s'organise. Et moi, je suis pas un geekos du dark web. Hein, je veux dire, moi, j'ai du mal à tout suivre et tout. Mais de temps en temps, je vais zioter et c'est trop bien parce que tous les gens prennent des initiatives. Et puis il y a Laurent qui dans les backstage fait un gros travail aussi. Et voilà, moi je suis plus dans le physique, j'aime bien rencontrer les gens, puis de toujours être là sur Internet et tout. Mais par exemple, dans le cadre du Covid, ben c'est une nouvelle forme. C'est une nouvelle forme pour répondre à un besoin de connexion les uns avec les autres.
Mais au-delà de la communauté créative ou illustrative, ce qui est chouette avec l'illustration, c'est que tu parles à un public n'importe qui, en fait, et tu vas pouvoir faire rêver des gens qui sont pas forcément qui vont être réceptifs à ce que tu fais à tous les genres différents. Et par exemple, moi, je sais ce qui m'a manqué pendant le Covid, c'est pas de faire des marchés de créateurs, parce que la première fois où je me suis rendu compte que je faisais rigoler les gens avec mes illustrations, c'est quand j'ai fait un marché de créateurs. Je m'attendais à rien, hein, c'était le premier, et en fait je faisais beaucoup de blagues et donc j'avais fait mes petits prints, et puis il y a 3 personnes qui passent, qui commencent à se marrer, ils m'achètent rien, mais je m'en fous, ils commencent à discuter avec moi, et en fait, tu te rends compte que le pouvoir de l'image, c'est hyper important, et ce que tu fais, ça fait des échos, en fait. Et c'est ce qui est beau aussi dans l'illustration, enfin, dans l'art en général, mais et ça, c'est chouette.
C'est clair.
Mais c'est vrai que tu vois, pour le coup, ça, c'est un truc qui me touche énormément. Première exposition qu'on a faite en 2013, il y avait 124 images. Ou 107. Enfin, beaucoup d'images et beaucoup de spectateurs. Et j'ai des copains qui m'ont dit, mais j'ai vu une vieille dame pleurer devant une image. J'ai vu une petite fille rigoler devant une autre. Alors moi, j'ai pas vu parce que c'est grand, il y a du monde qui passe, etc. Mais quand t'as des retours de gens qui ont vécu des émotions devant des images que t'as pu faire toi-même ou que d'autres ont fait avec toi, là, ça te met un peu... Ça fait quelque chose, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu récupères, en fait, le pouvoir de ton travail aussi.
Parce que c'est ça.
Quand tu bosses pour des clients, au final, les clients font des trucs pour que les gens les regardent, mais des fois, on oublie ça aussi en tant qu'illustrateur.
Non, non, c'est très bien. J'approuve.
La même.
Ouais, très bien.
Pour terminer peut-être un petit peu cette table ronde avant de passer aux questions du public, quel conseil vous donneriez aux personnes désireuses peut-être de que ça les chatouille là de faire des initiatives, de proposer des trucs, de faire des machins, quel conseil vous donneriez à ces personnes-là de votre expérience?
toi.
Moi, j'ai tendance à penser que il faut donner pour recevoir. Je sais pas si je l'ai déjà dit, ce genre de choses. C'est assez basique. Ça paraît assez évident. Il faut avoir de la patience, accepter que ça prenne du temps. Tout vient pas comme ça d'un coup en claquant des doigts. Il faut savoir s'entourer. Il faut avoir beaucoup de souplesse aussi. Il faut faire preuve de sagesse aussi. Je pense qu'il y a un peu ça. Pour juste reboucler. Je pense qu'on a quand on a comme ça des projets assez ambitieux, on a des prétentions aussi. Des prétentions au sens vraiment, parfois qui peuvent être négatives. Et travailler en collectif, travailler, sur des projets qui doivent porter les gens, il faut aussi avoir de la sagesse envers soi et envers les autres. Donc, avoir une bienveillance, c'est hyper important aussi. En être conscient, quand on embarque des personnes, c'est des personnes qu'on embarque. C'est pas une œuvre. Voilà. Donc,
voilà. On a affaire à des hommes et des femmes.
Ouais, c'est ça.
Et moi, je pense qu'il faut aussi pas avoir peur de le faire, en fait. Jamais. Faut y aller. Encore une fois, je vais redire la même chose, et au pire, tu te plantes. Sauf si t'as embarqué plein de gens, mais.
ouais.
Et encore là, t'as des comptes à rendre, mais t'es au courant, tu te mets aussi une certaine pression, t'essayes que ce soit bien fait. Mais après, il faut pas non plus être trop dur avec soi, il faut y aller. C'est juste ça. Je crois que moi, dans mon parcours personnel, il y a 3 ans, j'étais complètement sclérosée, j'avais peur de faire des choses, et il y a eu un déclencheur qui fait que, bah, maintenant, c'est bon, quoi, enfin.
Attends, c'est quoi le déclencheur? Écoutez l'épisode du podcast.
Voilà, l'épisode du podcast. Mais ouais, non, c'est juste, il y a un moment, j'avais juste plus peur de faire quoi que ce soit. Il fallait y aller. Parce que, c'était ça où je changeais de métier, mais j'avais pas envie. C'est tellement beau, l'illustration, il faut continuer à le faire. Voilà.
Ok. Michael?
C'est exactement ça, en fait, il faut foncer, quoi. Je pense qu'il faut aussi, on l'a dit il y a un quart d'heure, faut appréhender l'ensemble des tâches à fournir. Mais faut pas aller trop loin non plus parce que c'est effrayant. Et si vous saviez, ceux qui nous écoutent, la montagne de boulot que c'est, ça peut aussi un peu faire flipper. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si l'idée est bonne, si les premiers échos sont intéressants, si les premiers retours sont encourageants, si on est sûr qu'on peut aller jusqu'au bout, faut foncer. Faut y aller. Et justement, des gens nous suivent, des copains nous suivent, des artistes nous suivent. Si on est carré, qu'on lâche rien, qu'on est droit dans nos bottes, il y a pas de raison que ça foire.
Et tu vas des fois vachement plus loin que ce que tu pensais.
Bien sûr.
Enfin, même pas des fois, tout le temps, en fait. Tu vas vachement plus loin. Parce qu'on est plusieurs.
C'est beau. Bien sûr, ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Mickaël, Marion et Marie-Laure. On voudrait vous proposer, du coup, un petit temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, balancez-les nous. Enfin, une personne à la fois, donc, monsieur. Et puis, moi, je vais les reformuler. Et puis après, on répondra. Oui, monsieur. Ok, quelles sont nos bases universitaires ou nos parcours scolaires qui nous ont permis de faire ce qu'on fait aujourd'hui? C'est bien ça? Ok.
Alors, pour faire le lien notamment avec Nîmes, moi j'ai fait un bac art appliqué au lycée de Nîmes, donc un peu plus bas, qui s'appelait à l'époque le lycée Camargue, qui a été pour moi les 3 années les plus formatrices. Sur l'énergie, la découverte de l'énergie collective. Après ça, je suis montée à Paris, j'ai fait l'école Estienne, en me spécialisant dans l'illustration, la Sorbonne et les Arts Déco. Donc j'ai fait quand même vraiment des structures assez différentes, avec des formations tout le temps autour de l'illustration, l'image imprimée, l'image. J'ai pas été ici. Je dirais que c'est un peu à double tranchant l'école. C'est que soit on arrive à rentrer dans un groupe et on a une énergie collective qui se met en place et on a vraiment quelque chose qui nous porte. Soit on est dans une logique très individuelle. On suit, surtout quand on a fait des grandes écoles qui sont prestigieuses, je le dis, je l'assume, on a quand même le cerveau un peu farci de prétention, d'arrogance, de position un peu supérieure. On est l'élite. C'est souvent ce qu'on... Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et là, on peut bien se casser la gueule quand même à la sortie de l'école et se dire, ben, en fait, non. Faut reprendre un peu sur soi, observer un peu le monde, savoir ce qui nous porte. Et ce qui nous est finalement essentiel. Donc, est-ce que ça m'a servi? Bien sûr, ça nous a tous servi, en fait, les écoles qu'on a appréciées ou pas. Je pense qu'elles ont été extrêmement déterminantes dans la construction de notre personnalité et de nos envies. C'est juste, ça peut être, à double tranchant.
Mmh. Ouais, le même.
Moi, je sais que j'ai fait des études de graphisme, j'ai pas fait des études d'illustration, j'ai pas fait de formation en podcasting, mais j'étais passionné, je suis passionné d'illustration, je suis passionné de podcast, j'ai appris sur le tas. Et je pense que parfois, quand on apprend sur le tas, on peut avoir ce mix de sentiments d'imposture parce qu'on se dit, j'ai pas fait les bonnes études, j'ai pas la bonne formation, donc je suis peut-être un peu bricolé, un peu brinque-ballant. Mais de l'autre, on est peut-être libre de ce bagage parfois un peu trop lourd du prestige, de l'école, des attentes, etc. La légitimité, on en entend beaucoup parler. Est-ce que t'es légitime, etc. Et je pense que parfois on a peur, on sait pas comment faire, on a peut-être pas appris, mais en fait de juste y aller, c'est plus stimulant et plus fun que si on a déjà une grosse map monde et on se dit genre putain je dois faire tout ça et je sais comment je dois le faire si je veux le faire bien. Ça peut mettre une méga grosse pression et ça peut scléroser et empêcher d'avancer. Donc au final, peut-être que de pas être suffisamment formé, ça peut-être être une force au final, mais qui n'est pas facile à... On galère tous avec ce truc, hein, mais...
Ou alors, tu fais partie d'un collectif, justement, où, par exemple, moi, j'ai fait des études typographie et graphisme, et il y en a 3 dans mon collectif qui ont juste fait de la communication ou du journalisme, et qui se sont mis à l'illustration parce que, en fait, elles se sont aperçues qu'elles adoraient l'image. Et en fait, on s'échange vachement. Et ça, c'est super chouette aussi. Donc,
ouais, grave. Carrément. Ouais. Et puis, on s'entoure d'autres personnes qui nous stimulent.
Exactement.
Une autre question?
Allez, n'ayez pas peur.
Ouais. En fait, tu peux reformuler et puis répondre.
Oui. Par rapport à ce que tu dis, en fait, ce qui est marrant, c'est que justement hier j'en parlais avec Jérémy, c'est que du moins à Bruxelles. Après, est-ce que en France c'est la même chose? J'ai l'impression qu'on ne parle jamais d'argent. Quand on parle entre illustrateur et illustratrice, tu parles jamais de ton tarif horaire, de ce que tu demandes à un client. C'est caché parce que tu sais jamais si tu demandes trop ou si tu lui demandes pas assez. Souvent c'est pas assez d'ailleurs. Puis il y a les droits d'auteur et c'est tout ce schmilblick au final où tu te casses la tête pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine pour faire un devis. Donc là c'est cool, des fois t'as des agents, mais la moitié du temps tu sais pas comment faire tes prix. Et oui, et ça c'est, par exemple, c'est dommage. Je pense qu'on devrait parler un peu plus des prix. Là, dans mon idée, en septembre, octobre, moi j'aimerais bien mettre en place une sorte de charte tarifaire en Belgique sur des prix de base pour qu'on puisse commencer à discuter de ça. Et qu'il y ait, tout le monde puisse au moins se référer à un chiffre, même si si t'es senior d'office tu peux monter, mais qu'il y ait au moins une base, parce que ça c'est compliqué quoi.
Faut qu'on se parle en fait.
Faut qu'on se parle.
Mais je sais que quand je me suis lancé, j'ai pas eu peur de demander justement à ces personnes que j'avais appris à connaître. Tu demanderais combien? Et demander à quelqu'un d'autre. Et toi, tu demanderais combien? Et puis après, je croisais les infos. Mais c'est sûr que c'est assez, c'est des infos assez personnelles. Enfin, je veux dire que j'ai reçu une réponse par mail, je réponds au client et puis basta. Je sais qu'il y a la charte des auteurs illustrateurs en France qui se bat pour ce genre de choses aussi. Mais il faut avoir conscience que ça existe. Il faut s'y inscrire. Il faut suivre les choses. Donc, c'est clair que peut-être qu'en France, au niveau thunes, on a un petit peu du mal. Les Américains, ils sont un petit peu plus genre, yeah, whatever.
Mais, il y a ça. Et puis, moi, je dirais que l'illustration a l'avantage et l'inconvénient de se développer dans des marchés qui sont très, très différents. Le marché de l'art contemporain, des expositions en galerie, le marché de l'édition, le marché de la presse, le marché de la pub. En fait, tout ça, c'est des économies qui n'ont strictement rien à voir. Donc, tu peux multiplier par 10 le prix d'une image selon le marché dans lequel tu es. C'est extrêmement difficile de se... Moi, j'ai toujours en difficulté pour estimer la valeur de ce que... la valeur monétaire de ce que je fais, parce que je le fais en fonction du contexte et du marché dans lequel je m'inscris. Donc je pense qu'on a cet inconvénient, nous illustrateurs, d'être, je me rends pas bien compte. Je pense que les graphistes, les photographes sont peut-être sur des marchés qui sont peut-être plus identifiés, plus lissés. je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'en tout cas, nous, le marché de l'illustration a cet inconvénient d'être sur des économies qui sont très différentes et qui ne permettent pas facilement de bien définir la valeur.
D'où l'importance, ou en tout cas l'intérêt de peut-être avoir un agent. Mais qu'en est-il pour les personnes qui n'ont pas d'agent ou qui aimeraient, mais qui en fait et donc du coup tu te retrouves à genre je suis peut-être pas material to be represented, mais alors du coup je fais comment, parce que j'ai toujours cette envie, j'ai cette passion, j'ai ce désir de le faire quand même et je le fais bien, du coup ça coûte combien?
Alors tu vois, là c'est là où je pense que le boulot de directeur artistique, c'est de pas penser comme ça, ou plutôt d'aller chercher des gens qui sont pas forcément les plus connus. Nous au départ, on voulait, en fait on a eu du mal à se demander s'il fallait un éditeur ou pas, comment fallait s'organiser, parce qu'on s'est rendu compte que un projet comme le nôtre, on n'allait pas forcément nous suivre, et il valait mieux se lancer de nous-mêmes, quoi. Et en fait, moi, j'ai la conviction que quand on doit chercher un illustrateur, il faut aussi aller chercher vers ceux qui sont en train de se mettre en avant, d'exister, qui sont pas connus. Parce qu'il n'y a pas que les noms qu'on connaît à faire travailler, il y a tous ces gens qui sont extrêmement talentueux. Et je sais que nous, avec Aurélie dans Paris Honneur et aussi dans mes boulots à côté, je vais chercher à la fois des grands noms parce que c'est un honneur, c'est un plaisir, mais je creuse aussi à droite et à gauche des gens moins connus, des gens qui me contactent, qui n'ont rien fait, qui n'ont eu aucune commande, mais qui ont un boulot hyper riche et intéressant, et j'hésite pas à commander, à les accompagner. Donc je crois qu'il faut honorer tout ça, faut l'accompagner.
Ouais, c'est top. Ouais. Dénicheur de talent.
Oui, puis bon, il y a le côté aussi où tu dois, niveau contexte économique, la moitié du temps, on nous dit, en Belgique, c'est que ton client, quand il te demande un devis, tu lui renvoies et puis il dit je pensais que c'était vachement moins parce que t'es juste une personne qui fait un petit Mickey sur une table, quoi. Et ça, c'est hyper énervant parce que t'aimerais bien être pris pour ce que t'es aussi un professionnel de l'image. Tu crées des images. Tu dois être payé pour. On commence pas. Enfin, c'est toujours le truc, l'exemple de la baguette. Mais en vrai, il veut une image. Il veut une image qui fasse l'identité de sa marque, par exemple. Bah, au final, son identité de sa marque, c'est ce que les gens vont voir. Donc, pourquoi tu payerais pas le prix fort, le vrai prix, pour avoir l'identité de ton truc? C'est
soit 1,10€ pour une baguette.
Exactement, 1,10€ pour une baguette. C'est toujours super énervant quand tu dois, limite dans ton prix, à chaque fois, tu dois mettre l'éducation. Genre, tu dois éduquer ton client. C'est infernal. Limite, tu passes plus de temps à faire ça que de vraiment créer ton devis, quoi.
Voilà. Merde.
Merde.
Ouais.
Mais c'est vrai que... moi, ça fait... Quand j'ai retrouvé les vieux fanzines de 2003, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tout un parcours de projets collaboratifs. Même je me rappelle que quand j'étais étudiant aux Arts Déco à Paris, j'avais envie justement de monter un groupe avec des potes, de voir ce qu'on pouvait faire ensemble, plutôt en tant que graphiste qu'illustrateur. Mais voilà, c'est vrai que quand j'en reparle avec les copains, tout ce qu'on a fait avant, entre 2013, le premier Paris Honneur, il y a eu plein de projets. Donc c'est pas tant une maquette de ce qu'on fera après, c'est que c'est ce qui nous amène à faire ça ensuite. Ouais. Mais c'est le truc en fait que j'avais en tête quand on discutait un peu l'autre fois, c'est que au final, pour des projets qu'on peut qualifier d'envergure à la rigueur, ou juste une communauté ou fédérer son réseau, c'est que c'est le temps qui fait la différence. C'est-à-dire que nous, à l'exposition, la première a mis 1 an à se faire, la dernière a mis 2 ans et demi à se faire, Covid jouant certes, mais c'est quand même long à monter. Avec Marie-Laure, quand elle est venue nous voir pour le festival, ça fait presque plus d'un an, j'imagine.
Ça fait 1 an et demi du coup maintenant. Oui.
Et on se connaît depuis 8 ans en fait, donc au final, c'est toute cette histoire. Même nous, on s'est croisés il y a 8 ans ensemble, je te rappelle, on en parlait hier. Bref, et au final, quand quelque chose émerge auprès du public, c'est pas qu'il a été fait la veille, c'est qu'il a pris du temps à se coordonner, s'organiser, se réaliser. Et j'imagine que tous les copains qui bossent avec vous, c'est voir des années, si ce n'est pas des mois de tâtonnement, d'expérience.
Des amitiés, des rencontres, un projet expérimental de petite envergure. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler en fédéré, genre créer une communauté. Mais moi, ça a commencé avec un premier zine que j'ai fait, où j'ai demandé à 5 personnes que j'admirais, est-ce que tu voudrais participer? J'en ai fait un deuxième où j'étais voir 5 autres personnes qui me paraissaient des personnes connues, que je me disais, je sais pas s'ils vont accepter. Ils ont accepté. Je me suis rendu compte que j'aimais bien partager des mails avec eux. Puis après, je me suis dit, tiens, et si j'organisais une soirée de lancement et de dédicace dans une librairie à Paris? Et puis, je me suis rendu compte que là, il y avait, une 30-40 de personnes qui ont fait le déplacement pour mon petit projet à moi. Mais quand j'ai demandé à cette... il y avait un illustrateur en Belgique et deux illustratrices en Allemagne. Et elles ont dit, ouais, viens, on vient à Paris pour la soirée de lancement. Je veux dire... moi, je suis pas une rockstar de l'illustration, tu vois. Et puis ils étaient venus, le public était au rendez-vous, le petit public qui avait suivi le projet. Je me suis dit, tiens, mais il y a quelque chose. Puis après, quand j'ai organisé le premier pique-nique Sens Créatif, il y avait 20 personnes. Quand j'ai organisé le premier live, il y en avait 45. Quand j'ai organisé le second pique-nique Sens Créatif, il y en avait 60. Et j'étais genre, mais il y a un truc en fait. Et à un moment donné, quand tu vois que il y a des choses que tu testes qui ne fonctionnent pas, tu retestes parce que t'es têtu, ça ne fonctionne pas. Mais il y a des petites choses en cours de route que tu testes et qui, l'air de rien, fonctionnent et continuent de fonctionner. Tu te dis peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'être têtu sur ce machin-là, qui est un peu mon rêve initial et que je sers super fort. Et qu'à un moment donné, tu te dis, t'as la flexibilité de te dire peut-être qu'il faut que je pivote et de miser sur ce truc qui fonctionne et qui est naturel, qui est peut-être moins fastidieux et où il y a du répondant en fait. C'est facile et pas facile à la fois en fait de faire ça. Et puis au bout d'un certain temps, tu, comme dirait Steve Jobs, tu regardes en arrière et puis tu connectes les points et puis tu te dis ah mais en fait ça fonctionne. Et puis je pense quand tu deviens conscient aussi d'un process qui fonctionne, c'est de répéter cette chose que t'as conscientisée et de le faire avec intention et de bien le faire et d'appuyer sur tous les boutons qui fonctionnent en même temps. Ah bah là, soudainement, il y a quelque chose de peut-être plus fort qui peut se créer.
C'est une question de maturité en fait. C'est encore une fois, c'est tu testes les choses, mais tu le testes sans le vouloir. C'est ce que tu dis au final. Tu fais un truc parce que t'as envie de le faire. Tu vois ce que ça donne. Et au fur et à mesure, en fait, ça t'amène une autre énergie. Et au fur et à mesure de faire des choses qui deviennent un peu exponentielles, tu gagnes en maturité et tu gagnes dans ton expérience. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer, parce que sinon en fait tu gagnes jamais cette expérience, tu gagnes jamais cette maturité. Et encore une fois, il faut pas avoir peur en fait, vraiment.
On a peut-être encore le temps pour une ou deux questions. Ok, bah merci à tous d'avoir été présents avec nous. Merci beaucoup Mickaël, Marie-Laure et Marion. Merci à Laurent La Technique, merci à l'équipe du Festival encore pour l'accueil. Et encore une fois, merci à vous d'avoir été là avec nous. C'était hyper cool.
Merci.
C'était ma discussion avec Marie-Laure Cruchy, Mickaël Prigent et Marion de Melenard, enregistrée en public lors du festival Nîmes Illustre. Merci à vous trois pour votre participation, merci au public présent ce jour-là et merci aux organisatrices du festival pour l'invitation. Je garde de ce moment un souvenir mémorable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à mes trois invités en les suivant sur les réseaux sociaux ou en vous abonnant au compte Instagram du festival Nîmes Illustre. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de venir cette année, n'hésitez pas à consulter les photos de cet événement sur Instagram. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. Pour sûr, ce festival va devenir un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Mathilde Guégan qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
Salut à tous, je m'appelle Mathilde Guégan, aka Loun, et je vous parle aujourd'hui de Sens Créatif car c'est la communauté que j'ai choisie, c'est ma tribu. Alors je fais quoi? Bah je fais du dessin parce que je trouve ça juste super chouette. Et du coup, je suis fan de Sens Créatif, le podcast, et c'est pour ça que j'ai rejoint la communauté du Patate Club. Et du coup, je vais de temps en temps sur le Discord dans lequel je suis complètement perdue. Du coup, je dis « Ah, j'ai besoin de vous voir en vrai !» Et ça, c'est génial parce que une fois par mois, on se voit en vrai, en live, on échange et c'est très très chouette. Et voilà, c'est vraiment une contribution qui n'est pas très excessive car ça commence à 2€ que j'ai vraiment du plaisir à donner à Jérémy Kleiss pour qu'il puisse enregistrer de nouveaux épisodes passionnants de Sens Créatif.
Pour participer, vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur senscreatif.fr ou, je le redis, en allant directement sur patreon.com/senscreatifpodcast. D'avance, merci beaucoup.
Je profite aussi de l'occasion pour vous parler d'une toute nouvelle initiative du Patate Club, j'ai nommé le collectif Patate. D'une joyeuse communauté rassemblée autour de sens créatif a germé au printemps l'envie à divers membres du Patate Club de s'organiser en collectif d'artistes indépendants. Cette plateforme a pour objectif de vous proposer une présentation des univers et des travaux de chacun. Illustration digitale, lettrage, papier découpé, pixel art, il y en a pour tous les goûts et pour voir ça de vous-même, je vous invite à visiter le site internet consacré au projet sur www.collectif-patate-club.fr ou en les suivant sur Instagram, @collectif-patate. Vous verrez, chaque membre vous a préparé une petite présentation bien sympathique, donc n'hésitez pas à leur donner un petit like et à suivre le projet parce que ce catalogue est ouvert absolument à tous les membres du Patate Club qui en ont envie, l'occasion de mettre votre travail en évidence et de mettre nos énergies en commun. Bon, allez, il est grand temps de se quitter. Donc, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de faire connaître Sens Créatif. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Autre chose, si vous avez un invité, qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout, n'hésitez pas et écrivez-moi sur jeremy@jeremy-clay.com, ça s'écrit CLAEYS.com. Je termine comme d'habitude en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Le podcast va prendre quelques petites vacances, donc pas d'épisode au mois d'août, reprise en septembre. Mais avant ça, je vous donne rendez-vous le 28 août pour l'apéro pique-nique Sens Créatif à Paris et le 10 septembre pour le prochain live à la galerie Art Factory. Encore à Paris. Oui, je sais, c'est toujours à Paris, c'est tout, c'est comme ça. Allez, allez. Sur ce, je vous souhaite à tous un très très bel été. Profitez bien et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.